Accent d'Europe, Juliette Garbrand, Clotilde Dumais.
L'Albanie et l'OTAN inaugurent aujourd'hui la base aérienne de Kučevo, c'est dans le centre du pays. Cette place militaire stratégique sera la seule base de l'Alliance Atlantique dans les Balkans occidentaux, une région où l'agression de la Russie contre l'Ukraine exacerbe les tensions, en particulier autour du Kosovo.
Et en 1991, la ville de Kučevo s'appelait encore Stalineville. Hein, et cette reconversion d'une base de l'époque communiste illustre parfaitement l'évolution de ce petit pays de la côte adriatique.
Oui, même si la corruption, malgré des efforts, reste endémique, l'ancienne dictature est devenue un partenaire clé des États-Unis et des Occidentaux dans la région. Notre correspondant Louis Seyé s'est rendu à Kučevo, où la population suit de très près ces changements majeurs.
Dernier coup de pinceau avant l'inauguration sur la base de Kučevo. Derrière le portail d'entrée gardé par des soldats albanais aux écussons de l'OTAN, des vieux MiG soviétiques et chinois s'affichent comme des pièces de musée. Le colonel Kouli est le commandant de cette base aérienne située à 85 km au sud de Tirana.
La conversion de la base est d'une très grande importance pour l'Albanie, car c'est un investissement colossal. Cela va permettre la mise en place d'une infrastructure moderne qui répond aux exigences et aux standards de l'Alliance Atlantique pour ce type de base d'opération tactique. Et dans le même temps, elle est aussi importante pour toute la région, car la présence d'une base aérienne tactique de l'OTAN dans les Balkans occidentaux montre l'attention, l'importance et l'engagement de l'Alliance dans la région.
L'arrivée des troupes de l'OTAN et la renaissance de la base aérienne, tout le monde en a entendu parler à Kučevo. Lors de la période communiste, cette petite ville du centre de l'Albanie était au cœur de la stratégie de défense du régime d'Enver Hoxha. Le dictateur paranoïaque l'avait même renommée Stalineville. Dilaves Dilili a travaillé plusieurs années sur la base à l'époque de son âge d'or, dans les années 70.
La reconstruction de la base aérienne va avoir un impact important sur l'économie de la ville. Beaucoup de jeunes vont pouvoir y trouver du travail. À l'époque du régime, l'aérodrome et l'usine d'aviation employaient des centaines d'habitants et cela soutenait toute l'économie de la ville. Maintenant, avec l'OTAN, les gens ont le regard à nouveau tourné vers la base pour y trouver du travail, mais aussi dans l'espoir que cela permette de réhabiliter les infrastructures de la ville.
Comme tant de petites villes albanaises, Kučevo ne s'est jamais remis de l'effondrement économique qui a suivi la fin du régime communiste en 1991. Alors que les jeunes continuent de partir chercher du travail à l'étranger, beaucoup espèrent que l'installation de l'OTAN sera synonyme de nouvelles perspectives économiques. Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Certains retraités sont encore imprégnés des discours anti-impérialistes et isolationnistes du régime communiste. À 80 ans, Etem ne voit pas d'un si bon œil l'arrivée des avions de chasse américains.
Que ce soit les Américains, les Russes ou les Chinois, ils pensent avant tout à leur propre intérêt, ils s'en fichent du peuple albanais. S'il y a une guerre, ici ce sera l'un des premiers endroits touchés. C'est aussi une zone habitée, donc moi en tant que citoyen, je ne suis pas tellement rassuré par l'arrivée de l'OTAN ici. Ça a du bon mais aussi du mauvais, parce que si c'est bombardé, ma maison est juste là.
Depuis l'agression russe, les Albanais se montrent solidaires des Ukrainiens et seule une minorité redoute une possible extension du conflit. Le pays a adhéré à l'OTAN déjà en 2009 et le parapluie américain rassure la société très largement pro-occidentale. Mère de famille âgée de 30 ans, Eranda se félicite des 50 millions d'euros que l'OTAN a investis pour ouvrir sa seule base dans les Balkans occidentaux.
C'est sûr qu'il y a toujours un risque de guerre parce que l'Albanie est située dans une région stratégique. Et en plus, cette base aérienne a fonctionné aussi dans le passé. Mais bon, on n'a pas vraiment peur. Au contraire, on se sent même mieux protégé.
Alors que la Serbie voisine ne cache pas ses amitiés avec Moscou ou Pékin, Tirana tient à s'affirmer comme un pilier de la stratégie occidentale dans les Balkans. Ces dernières semaines, Anthony Blinken et Volodymyr Zelensky ont été les invités de marque des autorités. Mais pour l'expert en géostratégie, Redion Chiriazi, dans un contexte de risque de conflit majeur, le but de la base de Kučevo ne serait pas seulement d'assurer la sécurité des Balkans.
Et dans le même temps, l'augmentation de la présence des troupes de l'OTAN dans un pays comme l'Albanie permet d'élever le niveau de vigilance des structures de défense face à des acteurs déstabilisateurs pour notre pays ou la région. Mais je le vois aussi comme une partie de la stratégie des pays membres les plus puissants de l'OTAN. Construire une ligne de défense le plus loin possible de chez eux.
Tandis que les avions de l'OTAN s'installent dans le centre du pays, Edi Rama a également proposé à l'Alliance Atlantique d'utiliser deux bases navales aux positions stratégiques sur la mer Méditerranée. Accusé de dérives autoritaires et de liens avec le crime organisé, le Premier ministre albanais multiplie les signes de bonne volonté à l'égard des Occidentaux. I wanna hear you say, stop war in Ukraine.
Il y a tout juste une semaine, Juliette, l'Élysée organisait à Paris une conférence de soutien à l'Ukraine. Alors même que l'aide des États-Unis se fait attendre, les Européens, eux, restent mobilisés.
Ce qui inquiète Moscou, on l'a entendu dans votre journal, Clotilde. Mais lundi dernier, Emmanuel Macron, avec ses propos sur l'avenir de l'engagement des alliés, a déclenché une avalanche de réactions chez ses partenaires européens et même jusqu'au sommet de l'OTAN. Mais pourquoi tant de bruit? C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Soyons honnêtes. Les journalistes, les commentateurs et l'opposition ont exagéré la portée de la déclaration d'Emmanuel Macron. Non, il ne dit pas qu'il va envoyer des conscrits dans les tranchées ukrainiennes. Il commence par dire qu'il n'y a pas d'accord là-dessus.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée, des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
Pas de consensus pour le moment, mais il ne faut rien exclure à l'avenir. Quand on a un ennemi comme Moscou, qui s'autorise beaucoup de choses, cela semble logique de ne rien exclure. Alors, est-ce que cette déclaration valait toute cette agitation?
Quand même, pour rassurer les téléspectateurs qui nous rejoignent là et qui voient l'envoi de troupes pas exclu.
L'envoi de troupes pas exclu, c'est ce que vous pouviez lire en mauvais français quand vous arriviez sur BFM lundi dernier.
Vous nous dites ce soir qu'il n'est pas question d'envoyer pour l'heure des militaires français sur place.
Absolument.
Reprenons donc la vraie déclaration d'Emmanuel Macron. Pas de consensus pour envoyer des troupes au sol de manière officielle et assumée. Il y en a donc déjà, de façon officieuse. D'ailleurs, ceux qui connaissent le dossier ukrainien le savent bien, il y a des forces spéciales occidentales qui font de la formation, de la maintenance, du déminage. Un haut responsable européen l'a même confirmé au Financial Times il y a quelques jours. Donc encore une fois, est-ce que cette phrase valait cette avalanche de réactions? Ce qu'a probablement voulu faire le président, avec ses gros sabots français, c'est se placer en chef de file des Européens pour les pousser à agir et à dépasser leurs contradictions. Parce que si les 27 sont extrêmement prudents, surtout ne disons pas qu'on va faire ce que l'on fait déjà, beaucoup se sentent pourtant directement menacés par Moscou. Les Pays-Baltes, la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne. Écoutez ce que disait son ministre de la Défense, Boris Pistorius, le mois dernier.
Notre expérience de la guerre froide et la situation actuelle de plus en plus imprévisible avec Poutine nous apprennent que la dissuasion est le seul moyen efficace pour se positionner d'emblée par rapport à un agresseur en disant « ne nous attaque pas car nous aurons les moyens et la volonté de nous défendre ».
Alors l'idée du gouvernement allemand est de ne surtout pas provoquer l'agresseur potentiel, d'où le nom de Berlin aux Ukrainiens, qui aimerait bien des missiles Taurus.
Le missile germano-suédois Taurus a une portée d'au moins 500 km. Si les réserves de la chancellerie sont importantes depuis longtemps, c'est qu'elle redoute que son utilisation sur le territoire russe soit considérée comme une participation de l'Allemagne à la guerre.
Cette attitude de Berlin énerve beaucoup Pascale Joannin, la directrice de la Fondation Robert Schuman. Elle s'exprimait sur France 24.
Ils se targuent soi-disant d'être ceux qui envoient le plus de matériel. Sauf que voilà, quand il s'agit de donner des casques, pas de problème. Mais en effet, le missile Taurus, pourquoi ne le donne-t-il pas? Parce qu'à force de dire, on n'interviendra pas, on n'enverra pas d'hommes, on veut pas la Troisième Guerre mondiale. Grosso modo, on dit à Poutine, tu fais ce que tu veux, finalement ça nous intéresse pas trop.
Oui, c'est le risque. Alors d'accord. La sortie d'Emmanuel Macron était contre-productive du point de vue diplomatique. En plus, elle sent la petite manœuvre de politique intérieure. Le chef de l'État a provoqué des levées de boucliers du Rassemblement national, qu'il accuse d'être un va-t-en-guerre, ce qui permet au gouvernement de rappeler les accointances du RN avec Vladimir Poutine. Des gentils prêts à tout pour défendre Kiev contre des méchants pro-Moscou, avant les élections européennes, c'est toujours bon à prendre. Mais sur le fond, sa déclaration rappelle les enjeux de cette guerre. Car il ne s'agit évidemment pas de mourir pour le Donbass. Mais faut-il rappeler les attaques informatiques de la Russie contre nous, ces manipulations dans nos campagnes électorales, dans la presse? Que se passera-t-il ensuite si la Russie gagne la guerre? En Ukraine, il s'agit de défendre nos intérêts face à une puissance menaçante pour l'OTAN et pour l'Europe.
en 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. C'est ce qu'avait promis le président français en rendant hommage à l'avocate féministe Gisèle Halimi il y a un an, le 8 mars. Eh bien, promesse tenue, Juliette.
Oui, après le recul historique des États-Unis qui sont revenus sur la fameuse jurisprudence Roe vs. Wade en 2022, la France devient donc le premier pays à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Alors, ouvre-t-elle la voie en Europe? Sur le plan pratique, l'accès à l'avortement reste très variable d'un pays à l'autre. Est-ce qu'en Pologne, par exemple, où les ultra-conservateurs ont perdu le pouvoir à l'Assemblée, les lignes bougent? On a posé la question au spécialiste Neil Data.
En Pologne, il y a un projet de loi qui a été déposé pour autoriser l'IVG jusqu'à 12 semaines. Donc c'est une avancée très importante, mais ce n'est pas encore garanti puisque la coalition au pouvoir contient au moins un parti politique qui est réticent sur cette question. Maintenant, après 8 ans de ce gouvernement ultra-conservateur au pouvoir en Pologne, l'opinion publique polonaise a véritablement évolué vers une position pro-choix et qui demande un accès libéralisé à l'IVG.
Certains posent le problème de l'accès à l'IVG en termes de valeur et non pas en termes de santé.
C'est ça qu'il y ait cette dimension. En même temps, leur valeur spirituelle, confessionnelle, religieuse ne devrait pas limiter les droits aux soins de santé d'autres individus qui en auraient besoin. C'est d'abord une question de santé.
Un autre pays qu'on peut évoquer, c'est l'Irlande. L'avortement est légalisé depuis 2018. Comment les choses ont évolué depuis?
Maintenant, ils sont dans un processus d'évaluation de la mise en œuvre de cette loi sur l'IVG. Ils préconisent davantage de la libéraliser et d'améliorer l'accès à l'IVG sur le territoire, de former des personnels et puis aussi de mieux communiquer sur cette question. Aussi, l'Irlande, c'est un pays pas comme la Pologne, où l'IVG a tout le temps été interdit jusqu'en 2018. La Pologne était un pays communiste où l'IVG était autorisé jusqu'en 1996. Et donc, il y avait quand même dans ce pays une tradition au sein du corps médical de pouvoir pratiquer l'IVG.
Il y a parfois un grand écart en fait entre les textes et la réalité sur le terrain. C'est le cas en Italie.
Exactement. Selon les textes, l'Italie a une loi sur l'IVG assez correcte qui rentre dans la moyenne des autres lois européennes. Mais ensuite, il y a toute une série de mesures extra-légales qui créent des obstacles à vraiment pouvoir accéder à un IVG. Il y a aussi des centres de désinformation des femmes, parfois même au sein des hôpitaux publics, qui cherchent à dissuader les femmes à pouvoir procéder à un IVG en leur fournissant de fausses informations.
Sur le continent européen, de façon générale, est-ce que la France va servir d'exemple?
Les gens se rendent compte que le droit à l'IVG n'est pas acquis. La France, maintenant, fait un pas énorme en avant en constitutionnalisant ce droit pour mieux ancrer le droit à l'IVG, pour mieux le défendre au cas où il serait remis en cause par des acteurs politiques qui pourraient arriver au pouvoir, notamment la droite populiste, l'extrême droite, qui sont au Parlement dans beaucoup de pays européens.
Le spécialiste Neil Data, directeur exécutif du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs.
Et puis en Turquie, Juliette, les élections municipales approchent et Recep Tayyip Erdogan s'est fixé une priorité, récupérer Istanbul, sa ville conquise par l'opposition en 2019.
Et le scrutin aura lieu le 31 mars. Dans la campagne, la transformation urbaine occupe une place cruciale. Pour préparer la mégapole au séisme majeur qui la menace, le gouvernement a en effet promis de reconstruire la ville. Une ville où entre 50 000 et 200 000 bâtiments pourraient être détruits. Mais derrière cette politique de transformation urbaine se cachent d'énormes enjeux économiques et idéologiques. À Istanbul, le reportage d'Anand Lauer.
Fikir Tepe est un chantier dont on ne voit pas le bout dans tous les sens du terme. Ce quartier d'Istanbul, sur la rive asiatique, était censé devenir le modèle de la transformation urbaine promue par Tayyip Erdogan. La promesse, reconstruire sur des bases solides la plus grande ville de Turquie pour protéger ses habitants du séisme annoncé. Engin Akgüzel attend toujours. En 2011, lorsqu'un promoteur proche du pouvoir lui a proposé d'acheter le terrain de son immeuble contre deux appartements dans une tour flambant neuve, Engin, un chauffeur de transport scolaire, a refusé, comme beaucoup de ses voisins. 4 ans plus tard, le ministère de l'Urbanisme a brandi un ultimatum. Leur logement étant trop fragile, soit ils signaient, soit ils étaient expropriés. Son immeuble a été détruit à l'été 2016. Le promoteur a fait faillite l'année suivante. Fin 2020, le ministère s'est engagé à terminer le chantier via sa société d'investissement immobilier, Emlak Konut, et tout en saisissant les titres de propriété. Engin, président d'une association de propriétaires lésés, ne sait pas à quoi il aura droit, à quel prix, car la valeur des appartements a explosé avec l'inflation, ni quand il sera livré.
Les travaux ont repris en 2021. On nous avait promis une livraison fin 2023 pour le centenaire de la République. Eh bien, on en est loin. Pour ne rien arranger, les chantiers ont ralenti après les séismes de l'an dernier, car les entreprises ont transféré beaucoup de leurs ouvriers dans les régions touchées pour lancer la reconstruction là-bas. Maintenant, on nous parle de 2025.
Depuis les séismes du 6 février 2023 dans le sud-est du pays, qui ont tué au moins 53 000 personnes, le sort d'Istanbul est dans tous les esprits. Et la transformation urbaine, un thème majeur de la campagne du pouvoir municipal. Murat Kurum, celui que Tayyip Erdogan a chargé de reconquérir la ville, est le monsieur transformation urbaine du président depuis 20 ans. Mais Engin Akgüzel, qu'il a rencontré plusieurs fois à l'époque où il dirigeait le ministère de l'urbanisme, n'en attend pas grand-chose.
Mais que ferait-il pour nous en tant que maire qu'il n'a pas pu ou pas voulu faire en tant que ministre? Si le gouvernement le voulait vraiment, il n'y aurait pas de victimes de la transformation urbaine. À Fikir Tepe, comme dans d'autres endroits, les marges de profit sont énormes. Et tant que le gouvernement continuera à chercher le profit, il continuera d'y avoir des victimes.
Ce qui devait être un effort historique de la part des pouvoirs publics pour préparer les villes au tremblement de terre s'est mué en une vaste opération immobilière où les zones transformées sont rarement les plus risquées et souvent les plus lucratives. Bahadır Özgür, journaliste d'investigation au quotidien indépendant Duvar, a écrit des dizaines d'articles sur le sujet.
Depuis la loi de 2012 sur la transformation urbaine, le pouvoir n'a transformé que 2% des zones d'Istanbul considérées comme les plus à risque. En fait, il a utilisé la loi de transformation urbaine, donc l'argument du risque sismique, pour pouvoir construire sur des zones forestières, sur des zones agricoles. Il s'en est servi pour développer toujours plus les périphéries de la ville et quasiment pas pour transformer le centre-ville, à l'exception de zones très lucratives comme Fikir Tepe.
Une série de révisions à la grande loi de 2012 sur la transformation urbaine ont rendu les mairies quasiment impuissantes dans ce domaine. Ainsi, même une nouvelle victoire de l'opposition à Istanbul n'empêcherait pas le pouvoir de poursuivre ses plans. Mais dans un pays traumatisé par les séismes de l'an dernier, le discours du président et de son candidat pour Istanbul est clair. Seul le pouvoir central, en collaboration avec un maire du même bord politique, peut accomplir une tâche aussi pharaonique. Sur le fond, personne ne conteste le besoin de rebâtir une mégapole aux immeubles fragiles où une secousse massive pourrait tuer des centaines de milliers de personnes. Ce que critiquent les opposants, c'est qu'au-delà de l'obsession du profit pour l'État, les promoteurs et le secteur du bâtiment, la redistribution des profits de la transformation urbaine sert depuis le début des objectifs politiques de Recep Tayyip Erdogan. C'est ce qu'affirme le journaliste Bahadır Özgür.
Quand vous décidez de la manière dont une ville va se développer, vous décidez aussi de qui va y vivre. Qu'a fait Erdogan ? Dans les périphéries d'Istanbul, il a utilisé la loi de transformation urbaine pour distribuer des projets immobiliers très rentables à sa base électorale. Il ne l'a pas fait dans d'autres zones plus centrales où on ne vote pas pour lui. Prenez l'exemple de l'arrondissement pro-Erdogan d'Arnavutköy. Il y a 20 ans, c'était un endroit pauvre de 20 à 30 000 habitants. Imaginez un propriétaire d'un petit terrain qui a construit dessus un immeuble d'un étage. Erdogan lui dit « tu peux t'arranger avec un promoteur et y faire construire un immeuble de 20 étages ». Ce petit propriétaire est soudain devenu propriétaire de 10-15 appartements. C'est comme ça qu'Arnavutköy est aujourd'hui arrivé à 500 000 habitants et que les plans de transformation urbaine prévoient d'atteindre 1 300 000 habitants.
Engin Akgüzel, lui, sait qu'il ne pourra sans doute pas demeurer à Fikir Tepe. Il devra partir, tôt ou tard, avec sa femme et sa fille. Mais il ira au bout des procès qu'il a intentés. S'il le faut, promet-il, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme.
À la réalisation, Françoise Grelot. Restez avec nous sur RFI. Dans une poignée de secondes, l'info continue.